Vous écoutez Radio France Internationale, il est 9h30 à Paris, 7h30 en temps universel. Le journal Afrique avec Nemo Ampis.
Et l'audience de succès Masra reportée au Tchad, elle devait avoir lieu hier lundi, mais l'ancien Premier ministre a refusé de parler en l'absence de ses avocats. Ils disent avoir été refoulés. Succès Masra accusé d'avoir incité à la haine et à la violence après des affrontements intercommunautaires meurtriers survenus mercredi dernier. Nous sommes à N'Djamena. Puis à Libreville, pour écouter la réaction du gouvernement gabonais suite à la décision de la Cour internationale de justice, la CIJ a tranché en faveur de la Guinée équatoriale dans le contentieux territorial qui oppose les deux pays depuis plus de 50 ans. Une vive sortie devant la presse en République démocratique du Congo. Le parti d'opposition Ensemble pour la République dénonce des abus de pouvoir et un harcèlement de son président Moïse Katumbi par Kinshasa. Ensemble qui qualifie de danger public le régime du chef de l'État Félix Tshisekedi. Et puis, nous sommes à Cannes où le réalisateur égyptien Mourad Mostafa présente son premier film « Aïcha ne peut plus s'envoler » et dans lequel il est question notamment d'immigration. Situation confuse ce lundi à la coordination de la police judiciaire à N'Djamena où devait être entendu Succès Masra. L'ancien Premier ministre tchadien et président du parti Les Transformateurs est accusé d'incitation à la haine et à la violence et d'avoir provoqué le massacre de 42 éleveurs par des cultivateurs dans sa région natale mercredi dernier. Voilà 5 jours qu'il est désormais en garde à vue après son arrestation vendredi matin et ce matin il doit être entendu par les enquêteurs. Le récit à N'Djamena de Victor Moria.
Bandit, osez entrer si vous êtes des hommes. C'est ce qu'aurait lancé un agent de la coordination de la police judiciaire aux avocats de Succès Masra qui se présentaient devant le bâtiment où devaient être auditionnés leurs clients. Le collectif, composé d'une vingtaine d'avocats, explique avoir été menacé, insulté et surtout éconduit alors qu'il souhaitait venir assister à la première audience de l'ancien Premier ministre par les enquêteurs. Pendant ce temps, à l'intérieur, Succès Masra refuse de répondre aux questions des officiers de la police judiciaire en l'absence de ses avocats. Face à ce qu'il qualifie d'incident majeur, la défense demande et obtient un report de l'audition. Et ce matin, la procédure judiciaire devrait pouvoir commencer. Le président des transformateurs devra notamment justifier d'un audio enregistré en mai 2023 dans lequel il appelle à l'autodéfense des populations chrétiennes du sud du pays. Un appel que les autorités qualifient aujourd'hui d'incitation à la haine et désignent comme responsable des violences intercommunautaires de la semaine dernière. Victor Morian, N'Djamena, RFI.
Plus d'un demi-siècle de contentieux territorial et hier, la Cour internationale de justice a tranché et donné raison à la Guinée équatoriale qui revendiquait, comme le Gabon, sa souveraineté sur l'île de Mbagné, moins d'un kilomètre carré, ainsi que sur les îlots de Cocotier et Conga, potentiellement riches en pétrole et en gaz. De son côté, le Gabon estime que l'instance lui reconnaît une partie du territoire actuel de la Guinée équatoriale, dont Mongomo, la ville natale du chef de l'État équato-guinéen Teodoro Obiang Nguema. Je vous propose d'écouter la porte-parole du gouvernement gabonais, Laurence Ndong.
Le gouvernement prend acte de la décision rendue ce jour. La Cour internationale de justice retient dans sa décision que seuls les titres juridiques détenus par la France en 1960 et par l'Espagne en 1968, transmis par voie de succession au moment des indépendances, font foi en matière de souveraineté territoriale. Le gouvernement relève donc que, loin de clore définitivement le différend entre les deux pays, cette décision introduit une complexité supplémentaire et appelle les deux parties à renouer avec le dialogue. Le gouvernement réaffirme l'attachement profond du Gabon au principe de bon voisinage, de coopération régionale et de fraternité entre les peuples.
Les propos de Laurence Ndong, porte-parole du gouvernement gabonais, recueillis à Libreville par notre correspondant Yves-Laurent Goma. La décision a été rendue vendredi dernier. Les investigations en France contre Agathe Abiarimana sont désormais closes. La veuve de l'ancien président rwandais, Juvénal Abiarimana, n'est pas mise en examen. Les juges en charge de l'enquête assurent que les témoignages à charge pour un éventuel rôle dans le génocide des Tutsis en 1994 sont contradictoires et incohérents. En République démocratique du Congo, la colère du principal parti d'opposition Ensemble pour la République de Moïse Katumbi qui dénonce les abus du régime de Félix Tshisekedi évoquant les récentes perquisitions militaires dans les propriétés de l'opposant mais aussi des refus de passeport. Le parti appelle Kinshasa à décrisper le climat politique. Dieudonné Bolenge Tenge, secrétaire général du parti Ensemble, était face à la presse ce lundi dans la capitale.
Ensemble pour la République déplore et rappelle plusieurs faits qui témoignent du harcèlement à l'endroit de notre président national dont les autorités tiennent à tout prix à dégrader l'image dans l'opinion. Et comme vous le savez, tous ces cas d'abus de pouvoir et tant d'autres actes de barbarie commis à l'encontre de notre président national et d'autres leaders de l'opposition témoignent de la décadence de ces régimes qui exposent des paisibles citoyens à l'arbitraire. Qu'est-ce qui ne va pas dans les chefs des autorités de ces pays? Ensemble pour la République regrette qu'au lieu d'œuvrer à poser les jalons de la paix et de la réconciliation des Congolais, consolider l'unité nationale pour relancer la reconstruction du pays, le régime au pouvoir ne s'investit que dans l'indexation des boucs émissaires et la création de conflits. Par ces actes répétés, le régime de Félix Tshisekedi est devenu un danger public.
Dieudonné Bolenge Tenge, secrétaire général du parti Ensemble pour la République, au micro RFI de Pascal Moulegua. La RDC encore, où Joseph Kabila est invité aujourd'hui à une séance de travail par la commission spéciale sénatoriale. Elle a été mise en place après que le Sénat a été saisi par la justice militaire afin de lever l'immunité de l'ancien président et sénateur à vie. Hier, cette commission a auditionné l'auditeur général des FARDC, commission qui doit remettre son rapport d'ici mercredi soir. Direction l'Est de la RDC, on vous le disait samedi, plus de 300 personnes présentées comme des ressortissants rwandais ont été renvoyées vers le Rwanda au départ de Goma, capitale du Nord Kivu. Et hier, ce sont près de 800 personnes qui ont vécu le même scénario, prises en charge par le HCR au commissariat onusien pour les réfugiés. La plupart sont des femmes et des enfants arrêtés par le groupe armé AFCM-23 qui les accuse d'être en situation irrégulière en RDC. Le récit signé Alexandra Branjon.
Les vêtements déchirés, le visage fermé, ce sont principalement des femmes et des enfants qui sont descendus des bus du HCR à la Grande Barrière, frontière entre la ville de Goma et de Gisenyi au Rwanda. Nombreux d'entre eux disent être venus en RDC il y a longtemps à la recherche de terres arables, comme en témoigne Bimenyama et son voisin Bonané.
Je suis rwandais et je suis venu vivre en RDC en 2000. Nous étions agriculteurs et éleveurs. Il y a eu la guerre, puis le M23 nous a ramenés à Goma.
Mes parents sont rwandais et sont venus vivre en RDC où j'ai grandi. J'entendais parler du Rwanda, mais je n'y ai jamais mis les pieds. Nous avons été pris à Sake et on nous a dit qu'il fallait que nous rentrions. Ma femme et mes quatre autres enfants sont restés à Massissi.
Certains affirment même avoir des papiers d'identité congolais. À la frontière, ils sont pris en charge par les autorités rwandaises. Ils seront envoyés au centre de transit de Nyarushishe pour y être identifiés et recevoir une assistance, explique Mwalindo Prosper, maire de Rubavu.
Nous assumons qu'ils sont rwandais, mais si au centre de Nyarushishe, on détecte des Congolais qui ne sont pas rwandais, ils seront facilités de retourner chez eux.
Contacté, le HCR à Genève reconnaît que ces retours ne remplissent pas toutes les conditions d'un rapatriement volontaire, mais ajoute qu'il ne s'agit pas non plus d'expulsion ou de refoulement.
Alexandra Branjon au Soudan. Cette information de dernière minute, le porte-parole de l'armée assure que des affrontements entre l'armée soudanaise et les paramilitaires ont éclaté ce mardi donc à Omdurman, ville voisine de la capitale Khartoum. Ce porte-parole qui évoque une offensive de grande envergure pour chasser les forces de soutien rapide de leur dernière position dans l'état de Khartoum. En Tanzanie, une première audience a eu lieu hier devant un tribunal de Dar es Salaam dans l'affaire Tundu Lissu. Le chef de l'opposition, notamment accusé de trahison pour laquelle il risque la peine de mort, il était présent, mais le bureau du procureur a demandé le report du procès, demande acceptée. Le procès est donc ajourné au 2 juin. La présidente tanzanienne Samia Suluhu Hassan a, elle, interdit aux observateurs étrangers de venir s'immiscer dans les affaires de son pays, et cela notamment après l'arrestation de 3 Kenyans, dont l'avocate Martha Karua, arrêtée dimanche à l'aéroport de Dar es Salaam alors qu'elle venait assister
au procès. Le président sud-africain Cyril Ramaphosa a atterri lundi à Washington où il espère raviver sa relation avec les États-Unis de Donald Trump qu'il doit rencontrer demain. L'Afrique du Sud, ciblée depuis des mois par l'administration Trump et son premier cercle où figure le natif de Pretoria, Elon Musk, il reproche notamment un prétendu génocide visant les descendants des premiers colons européens ainsi que la plainte sud-africaine pour génocide visant Israël devant la CIJ. Et puis le sud de la France et Cannes pour refermer cette édition. Le festival bat son plein. Et l'Égypte est très représentée en lice dans plusieurs compétitions officielles. L'occasion pour Mourad Mostafa de présenter son premier court-métrage. Lui qui a déjà participé à des dizaines de festivals à travers le monde pour présenter trois courts-métrages. Un film intitulé Aïcha ne peut plus s'envoler et dans lequel il revient sur la question de l'immigration et des réfugiés. Ouda Ibrahim.
L'immigration africaine au Caire est un thème cher au cœur de Mourad Mostafa. Il l'a traité dans deux de ses précédents films courts et il y revient dans son premier long métrage « Aïcha ne peut pas s'envoler ». Alors qu'il continuait à réfléchir sur cette thématique, un événement va déclencher l'idée du scénario.
J'étais dans un microbus au Caire. À côté de moi, il y avait une jeune femme soudanaise qui tout d'un coup s'est mise à crier avant de quitter précipitamment le microbus. À partir de cet instant, j'ai commencé à m'interroger sur les raisons. Quel cauchemar a-t-elle pu faire pour réagir ainsi? En plus de cela, j'ai grandi moi-même dans un quartier populaire mélangeant Égyptiens et migrants africains.
Aïcha, qui allait devenir infirmière, procure de soins et d'autres services à domicile à des personnes âgées. Sous la pression d'une société frustrée à plus d'un niveau, elle est contrainte une nouvelle fois à faire face à une guerre d'une autre sorte, la violence sociétale au Caire. Impuissante, sa colère explose. Mourad Mostafa s'essaye à casser la rythmique des films sur l'immigration en y ajoutant de l'action, de la violence et en associant le réel au fantastique. Houda Ibrahim, RFI, le Festival de Cannes.
Et c'est ainsi que se referme cette édition. La suite et la fin d'RFI Matin. Vous retrouvez Marion Casanova.